deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Attention, vous allez entendre en première partie de cette émission des nouvelles concoctées dans les ateliers d'écriture de la Halvec et à l'atelier Instant de l'Université Permanente. Ambiance noire et polar.
La virée d'une groupie. La circulation est très dense en ce vendredi soir. Joyce, au volant de sa Plymouth, plus très jeune, se faufile habilement au milieu des flots de véhicules. Elle est très appliquée à suivre l'itinéraire que Doug lui a ordonné. D'abord l'autoroute A3, puis l'A7 en direction de Manchester dans le New Hampshire. Par moments, un léger pincement lui serre le cœur. Saura-t-elle accomplir la mission que Doug lui a fixée? Livrer un paquet dont elle ignore tout à Manchester. Surtout, ne pas ouvrir le coffre, le contenu est secret. Il lui a donné là une belle preuve d'intérêt et de confiance. Son avenir à lui, crooner célèbre, est entre ses mains à elle, petite groupie énamourée, une parmi des milliers. Il a bien insisté là-dessus, question de vie ou de mort. C'est vrai qu'elle le suit depuis ses débuts, qu'elle est au premier rang à tous ses concerts, et elle sait bien que les œillades qu'il décoche au public lui sont en général destinées. Elle ne peut espérer plus, elle l'aime depuis 20 ans presque. Elle a épousé Robert parce qu'elle ne pouvait pas l'épouser lui. Robert a très vite mal supporté cette passion, pourtant platonique. Ils ont fini par divorcer. Ainsi, elle est plus libre pour suivre son idole. Joyce ferait bien une petite pause. Les yeux commencent à la brûler. Un bon café serait le bienvenu. Ah, enfin, une pancarte Sunlight Motel dans 25 km. Elle y arrive bientôt, gare sa Plymouth et entre dans la cafétéria. La salle est presque vide. Seul dans un coin, un trio de camionneurs s'empiffre de bière et de hot-dog. Il la dévisage quand elle passe, la siffle et l'un d'eux lui adresse une plaisanterie grivoise qui la fait rougir. Leur tournant le dos, elle se laisse tomber sur la banquette et on lui apporte le café et les crêpes commandées. C'est alors que les plaisanteries s'alassent et les sifflets reprennent de plus belle. Joyce se retourne et voit une grande et belle fille en mini-short et Santiago avec un gros sac à dos s'arrêter à la table des trois hommes. Elle se plante devant eux et d'une voix de stentor leur lance une bordée d'injures. L'un d'eux lui attrape le bras. Elle lui décoche alors un direct du droit pile dans le nez. Le sang gicle. Les ignorants, la fille se dirige vers la table de Joyce, éberluée. Elle s'assoit face à elle. « Tu permets? Pas de manière entre nous. Tu as vu comme je les ai mouchés? Ah, faut pas m'en compter à moi, je suis une vraie routarde. Et des gars comme ça, j'en vois tous les jours, je sais les mater. Je me présente, Sandy, j'ai derrière moi des milliers de kilomètres en stop. Pourras-tu m'avancer dans mon périple? Je vais en direction de Manchester. Et toi ?» Oui, bafouille Joyce qui se sent toute petite. Et Sandy se commande bière, omelette et beignet. Elle commande aussi une bière pour Joyce. Tiens, ça va te remettre d'aplomb. Allez, bois. Sandy parle d'abondance, puis se roule un joint qu'elle offre à Joyce, qui refuse. Comme tu veux, répond Sandy, tu m'as l'air bien fragile pour faire seul un tel parcours. Mais bon, ça va, on est d'accord nous deux pour la route. D'accord, répond Joyce, à qui l'aplomb de Sandy donne confiance. Peu après leur départ, Sandy ronfle sur la banquette arrière. Joyce suit toujours l'itinéraire fixé par Doug. Bientôt, elles arrivent à Manchester. Là, elles trouvent sans peine l'entrepôt frigorifique près de l'usine d'incinération, comme l'a ordonné Doug. Elles sonnent et un employé arrive, grand, baraqué, le cheveu sale et l'œil mauvais. Il s'adoucit en les voyant. « Qu'est-ce qu'elles veulent, les petites dames? Ah, c'est vous, la Plymouth. Doug m'a rencardé. Ce sera vite fait. Ouvrez-moi le coffre. » Joyce s'exécute et voit avec horreur l'homme sortir un grand tapis enveloppant quelque chose qui pourrait bien être un corps. L'homme charge le colis sur son épaule et l'emporte dans l'entrepôt. Il ressort avec des bières. « Allez, on trinque. Ah, elle manque pas de courage, cette petite dame. Comme ça, on transporte un cadavre sur 500 km et on s'en débarrasse chez Peter. Ça vaut bien une petite récompense pour Peter. Qu'est-ce que tu en dis, la blonde ?» Et il enlace Joyce qui se débat impuissante. Alors, Sandy fourrage dans son sac à dos, en tire un colt, vise l'homme et lui tire une balle dans la poitrine. Joyce hurle, affolée, mais Sandy l'attrape par le bras, la pousse dans la Plymouth qu'elle démarre en trombe. Affalée à ses côtés, Joyce sanglote, terrassée par l'émotion. « Allez, on va se payer une virée entre filles, » dit Sandy. « Je vais t'apprendre, moi, ce que c'est la vie. » Elle conduit, sûre d'elle, cheveux au vent, chantant à tue-tête en même temps que la radio. Enfin, la Plymouth s'arrête. Elles sont au milieu d'un campement hétéroclite où voisinent caravanes plus ou moins rouillées et bungalows peints de couleurs vives. Sandy ameute la foule à grands coups de klaxon et des habitants aux vêtements bariolés sortent de leurs abris. Ils portent des dreadlocks ou des barbes embroussaillées, d'autres ont le crâne rasé. Les femmes portent parfois des fleurs dans les cheveux, leurs nombreux bracelets cliquettent au moindre mouvement. Ces hippies sont ceux que Sandy appelle sa famille. Elle embrasse ou serre dans ses bras tous ses habitants. Elle exulte, on tire des pétards en son honneur. Et elle présente Joyce. « C'est ma nouvelle petite sœur. Elle est très courageuse, mais fragile. On ne touche pas à un seul cheveu de sa tête, sinon... » et elle caresse la crosse de son colt. Vite, des tables sont dressées, avec toutes sortes de plats maison ou de produits du jardin, et bien sûr de bouteilles fort nombreuses d'alcool et de breuvages divers. On boit, on crie, on chante, on se passe des joints, et cette fois, Joyce accepte. Elle est dans un état second, elle pleure et rit à la fois, ne s'étonne plus de rien et se laisse aller, à demi enivrée, tandis qu'un barbecue géant conclut cette fête improvisée. Enfin, Doug est bien loin.
Jet FM 91.2, les ateliers des Valouna.
Fashion victim. Un couloir assez large, sans doute 1m80, 3 unités de passage en termes de normes d'évacuation, mais que sa longueur faisait paraître étroit. Puis il y avait cet interminable escalier au bout. En cas de panique, l'absence de main courante entraînerait forcément des chutes. Mais il ne suffisait pas de compter là-dessus. Salim, la bénédiction d'Allah soit sur lui, lui avait appris à ne pas se fier au hasard. « Ali, mon frère, regarde mieux cette photo. » C'est à toi de transformer tout ça en piège. Ne crois pas que la chance abandonne les mécréants. Allah te teste en permanence. Ton courage et ta foi ne suffisent pas. Il te faut aussi la patience, la ruse et l'intelligence. Il avait buté sur le dernier mot. Puis il était resté un moment silencieux en l'observant. Enfin, il avait poussé un petit soupir. Mais ta dévotion est sincère. Inch'Allah, souviens-toi de tout ce que je t'ai enseigné. Il s'était levé, il avait enlacé Ali, mais sans trop le serrer à cause de la ceinture, et il était parti vers son destin, le laissant désormais seul. Ali avait déjà une idée pour l'escalier. La semaine suivante, il fit des repérages autour du théâtre. Quelques achats aussi, des fumigènes, un coutelas de chasse à lame crantée, un grand sac de balles de golf. Le jour prévu pour l'attentat, il arriva avant le début du spectacle et prit un moment la file d'attente au milieu de ses futures victimes. Une joie mauvaise l'envahissait en observant ses couffards qui allaient vivre une soirée de cauchemar. Et que dire des femmes qui le cernaient, fardées, impudiques, provocantes. Elles attiraient d'elles-mêmes le châtiment divin. C'en était trop pour lui. Il fit brutalement demi-tour, surprenant la jeune femme derrière lui. Ils se percutèrent, et il sentit ses seins s'écraser sur son torse. Une violente décharge de désir le parcourut. Il se dégagea écarlate. Elle avait également rougi. Ali la dévisagea d'un regard affolé. Comment une infidèle pouvait-elle avoir un visage d'une pureté si troublante? La haine et la concupiscence s'affrontaient en lui aussi violentes l'une que l'autre. Il baissa les yeux, aperçut de fines chaussures vermillon, cracha une injure et s'enfuit. Shaitan, c'était Shaitan, bien sûr, qui essayait de le détourner de sa mission. Il serra le manche de son couteau de toutes ses forces. Ce soir, il serait au paradis d'Allah, au-delà de toute tentation.
Le hall était plein. On ne pouvait pas dire bondé, vu la distinction de l'assistance. Des smokings, des robes de soirée et d'autres tenues d'aspect plus simple, mais qui toutes transpiraient l'argent. Encore un peu troublé par sa rencontre violente avec le barbu au regard halluciné, Hélène tentait de la jouer décontractée dans cette ambiance exotique pour elle. En jean, convenablement lacéré et spencer rouge sur un t-shirt blanc, Elle compensait l'absence de bijoux précieux ou de montres de marque par le port d'escarpins Le Botin, du même rouge, sur lesquels elle s'efforçait de garder son équilibre. Anne-Sophie lui avait fait faux bond hier, après l'avoir tannée depuis des mois pour assister à cette représentation. Trop tard pour annuler. Vu le prix des billets et des stilettos, elle n'avait plus qu'à se taper la pièce en solitaire, en maudissant son amie, responsable de ce qui s'annonçait comme un fiasco. La foule pénétrait dans la salle avec la fluidité et l'aisance des gens du monde, et elle se trouva bientôt, assise, dans les premiers rangs avec deux couples de septuagénaires, mari tremblotant, épouse emperlousée. Ça promettait. En plus, elle connaissait déjà l'histoire, même si elle avait un doute sur la fin. Rodrigue et Chimène, stop, ou encore, elle l'avait oublié.
La réponse n'était pas pour ce soir. Alors que le Cid venait de transpercer résolument un Don Diègue résigné, une fumée blanche sortit de derrière la scène, et l'alarme se déclencha, assourdissante. Les lumières s'éteignirent, remplacées par l'éclairage de secours, à peine visible dans le brouillard qui s'épaississait de seconde en seconde. Une mutation étonnante avait gagné la salle. Sous l'effet de la peur, les spectateurs BCBG s'étaient métamorphosés en bêtes sauvages.
La voisine d'Hélène lui jeta son manteau en fourrure, l'étouffant à moitié tandis qu'elle s'enfuyait avec une vitesse surprenante. Hélène essaya de suivre, mais se tordit la cheville et chuta dans une rangée de fauteuils pendant que le flot la dépassait. Elle se releva, trottina maladroitement vers l'issue la plus proche, arriva dans un premier couloir au milieu de l'hystérie générale. L'idée de se débarrasser de ses coûteux escarpins ne lui vint pas à l'esprit. Elle ne réfléchissait plus. Plus tard, elle dirait qu'elle avait senti qu'une sorte de force ou d'intelligence collective s'était mise en œuvre et que tout ce qui avait suivi avait été l'effet de son emprise. Ou peut-être même le résultat avait-il été prévu et pourquoi pas voulu par cela.
Cela, c'était la foule. Ce millier de personnes devenues sous l'effet de la panique un organisme unique, aux réactions synergiques. Comme ces poulpes, dont les triples cœurs et les tentacules tapissés de neurones leur donnent des capacités surhumaines. Le tentacule auquel appartenait Hélène était parcouru de contractions péristaltiques, l'aspirant vers le carrefour des couloirs d'évacuation.
Elle fut ballottée, emportée, pantin, aux jambes, à la tête et aux bras agités, heurtée, parfois retenue prisonnier avant qu'un nouveau choc ne les libère. Progressant comme une boule de flipper, d'obstacle en obstacle, elle parvint au confluent des couloirs, endolorie de haut en bas, mais indemne.
Un instant, elle se crut sauvée. Mais le foulpe, pour utiliser le nom que la science propose pour ce phénomène encore controversé, le foulpe n'en avait pas fini avec elle. Une conscience rudimentaire des cellules qui le composaient et de leurs possibilités s'était peu à peu tissée en lui. Rien de mesurable ou d'abouti, juste les premiers réflexes du vivant, la préservation, l'instinct de survie. De minute en minute, les interconnexions de ses neurones croissaient de façon exponentielle. Il avait déjà localisé dans un de ses membres inférieurs la douleur qu'il éprouvait. Comme tout organisme menacé, il allait se défendre à tout prix. Et Hélène était ce prix.
Dans les cris, le manque de clarté, la confusion, elle subissait une pression croissante. Elle respirait de plus en plus difficilement. Les deux escaliers de secours étaient engorgés et le nombre de personnes bloquées dans le sas augmentait dangereusement. Alors, comme une épave qui remonte à la surface dans les remous d'un naufrage, elle se sentit poussée vers le haut et se retrouva pratiquement assise, puis allongée sur une mer de crâne et d'épaules, tentant en vain de se retenir à un vêtement ou une tête. Les convulsions de la foule, ou plutôt les spasmes de la créature, la faisaient avancer lentement vers les sorties, dans une dérive apparemment aléatoire. Mais le foulpe avait choisi pour elle l'issue de droite. Quand Hélène arriva en haut de l'escalier, son mouvement se transforma en une descente chaotique, toujours aussi lente. Les bruits indistincts faisaient maintenant place à des cris et des gémissements qui s'amplifiaient. Elle comprit qu'elle allait vers quelque chose de terrible et voulut reprendre pied. Mais sous elle, ce n'étaient plus des têtes, mais les corps enchevêtrés des spectateurs qui étaient tombés les uns sur les autres. Elle se mit à glisser à une vitesse que la terreur lui faisait paraître vertigineuse. Son hurlement rejoignit ceux qui montaient à sa rencontre.
Ali était au bout de sa route et au pied des marches. Dans la lumière verdâtre du couloir, le coutelas à la main, il attendait le déclenchement de l'alarme en s'efforçant de purifier son esprit avant le sacrifice. Peine perdue. Le visage de l'inconnu s'insinuait à chaque instant dans ses pensées. Qu'il imagine les récompenses qui l'attendaient, et voilà que les houris promises aux martyrs avaient ses traits, son t-shirt gonflé et ses chaussures aux talons démesurés. Qu'il porte son attention sur sa mission, et il voyait la femme devant elle, yeux mi-clos et lèvres entr'ouvertes sous son couteau qui lui échappait. De désespoir, il était tombé à genoux, implorant Allah de lui rendre la paix et d'affermir son bras. La sirène le fit sursauter. Il se mit debout, étreignit son arme et attendit ses victimes. 30 secondes et le bruit des portes l'alerta avec les exclamations et les piétinements. La première vague arriva en haut de l'escalier. Surpris par les balles de golf, les fuyards chutèrent en hurlant, se culbutant mutuellement, les plus malchanceux dégringolèrent jusqu'à lui. Il leva son arme, frappa, faisant jaillir le sang et les cris. Combien de temps, combien de coups, combien de mécréants, 10, 20, 30, il ne comptait pas, il frappait, frappait, frappait encore. Mais le flux s'était presque tari, les corps s'amoncelaient, il était obligé de les escalader. Maintenant à genoux, dégoulinant de sang, il eut soudain la vision d'une forme qui glissait rapidement vers lui, comme surfant sur les gisants. C'était tellement irréel qu'il resta immobile, le couteau levé, tentant de comprendre. Il y eut un double craquement. Dans un bruit sec de bois mort, celui de la cage thoracique d'Ali, fracassé et perforé par le talon effilé de la chaussure d'Hélène. Et, plus discret, celui de la chaussure elle-même qui venait de rendre l'âme. Hélène poussa un cri terrible, et la puissance de ce cri la rendit brutalement à elle-même. La déconnexion se propagea en chaîne, et le foulpe se délita en un instant, aussi furtivement qu'il s'était constellé, et ce fut comme s'il n'avait jamais existé. Dans un silence que trouaient encore les râles faiblissants des blessés, il n'y eut plus qu'une foule ordinaire, dont chaque membre palpitait seulement de ses propres émotions. Écartelé entre peur, douleur, colère, impuissance ou espoir.
Vous avez entendu la virée d'une groupie, Daniel, fashion victim Henri Burkhardt.
Jot FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Et voici en seconde partie notre série proposée par l'association SOS Discrimination et les ateliers des Valounas. Écrire une fiction à partir d'un fait d'actualité qui questionne, soit un fait social, soit un fait politique qui parle d'injustice et de discrimination, un fait autre qu'un fait divers, un fait dont on ne parle pas ou peu dans les médias. Vous allez entendre une fiction inspirée par la marche des sans-papiers qui a réuni plusieurs milliers de personnes parties le 15 septembre 2020 de toutes les régions de France. Cette marche pour l'égalité avait pour but Paris, plus précisément l'Élysée, et comme échéance le 17 octobre 2020.
Inaya. C'est Yasmine qui l'a convaincue de rejoindre cette marche des sans-papiers. Elle, Inaya, elle voulait rester au foyer. Elle n'aime pas la foule. Elle a peur des cris. Très vite, Yasmine bavarde joyeuse avec tous ceux qu'elle connaît et disparaît dans la foule, la laissant seule. Inaya continue d'avancer avec le groupe, mais son pas ralentit. Son cœur flanche. Elle n'a plus envie de tout ce tumulte, de tous ces slogans scandés. Ça lui prend souvent de se sentir trop seule, d'éprouver cet écroulement qui l'a fait tout abandonner d'un coup. Ses enthousiasmes, ses espoirs, ses luttes. Elle ralentit. Personne ne voit qu'elle sort du cortège. Elle devient simple passante, se tourne vers une vitrine et lentement se dirige vers la rue adjacente en espérant que personne ne l'appelle. Elle connaît bien cette ruelle qui monte vers le parc. d'où elle peut voir très loin, bien au-delà de Paris. Là, elle s'agenouille dans la même position qu'elle avait l'an dernier, sur cette plage de l'île de Lampedusa, après le sauvetage de l'embarcation de fortune sur laquelle il s'entassait à plus de 50. Aujourd'hui, comme à chaque fois qu'elle s'isole, elle rejoint cette femme à garde qu'elle a été, et elle regarde au bout de la mer en souhaitant que l'horizon soit entaché d'un point qui serait le pneumatique sur lequel a embarqué son fils Amédée. Elle veut croire qu'il va arriver. La première embarcation n'avait pris que les femmes et les jeunes enfants, avec quelques hommes pour les manœuvres. Elle s'y était installée avec ses deux plus jeunes fils. Amédée, son fils aîné, avait dû attendre le second canot qui prenait les adultes et les adolescents. Inaya a les yeux fixes. Elle quitte tout à fait le parc et les bruits de la ville. Elle est sur la plage, toujours agenouillée. Elle ne prie pas. Son corps entier est une prière, une supplique à la mère pour qu'il lui revienne son fils, son Amédée qui veillait sur elle. Les gardes-côtes n'ont trouvé aucune trace d'épave, aucun corps non plus, et elle continue d'espérer que les malheureux ont pu accoster quelque part sur une île lointaine et qu'il reviendra. Elle attend Amédée, c'est son seul projet. Il ne peut pas être mort, il est trop droit, trop juste, trop soucieux d'elle et de ses frères. Elle a tellement besoin de lui. Et si la mère l'a pris vraiment, il faut que ce soit avec douceur, qu'elle l'ait enveloppé dans un coquillage géant où il attend de lui revenir, comme dans son ventre, il avait attendu de naître. Le voilà, il vient vers elle, il est de retour. Il sort des flots, elle sent ses mains sur ses épaules, elle pleure tellement, elle lui dit de rester, il n'a pas le droit de venir si présent dans ses rêveries et de la laisser, après, naufragée de tout. Maintenant, elle dit à travers ses larmes, « Pourquoi tu pars? Je ne peux pas vivre si de ma vie tu es absent. » C'est la brise dans les arbres qui lui répond, « Non, c'est son fils qui parle et s'éloigne, elle ne sait plus. » Mais elle est sûre de ce qu'elle entend, ces mots. Il n'y a pas de retour, pas plus qu'il n'y a d'absence. Tous, toutes, nous sommes des fragments de ce tissu qui se nomme humanité. Chaque enfant que tu berces, c'est l'enfant que j'ai été, et je suis dans le regard de chaque adulte que tu regardes avec tendresse. Chaque caresse que tu fais est une même caresse. Chaque main que tu tiens est une même main, un même lien. Ne m'attends plus. Je suis là, là, dans ton geste. Inaya sort de sa torpeur, elle essuie son front, ses joues, sa bouche assoiffée. Elle se lève lentement et se met en route. Elle veut retrouver la marche des sans-papiers. Elle veut rester auprès de tous et leur tenir la main.
Vous venez d'entendre Inaya, écrit par Martine Dupeux. Les nouvelles de cette émission ont été lues par Philippe, Élise Gérard et par Martine Dupeux.
écoute FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
En cette émission du 9 décembre, nous devions accueillir la compagnie Moradi pour découvrir le mini-festival VIP du Breil qui devait se tenir ce mois de décembre. Un festival qui parle de romance européenne, de sentiments européens, de voisinage et de quartier. Le festival a été annulé, du moins reporté à une date ultérieure. Ce sera du 1er au 10 avril 2021. Mais nous aurons bientôt la chance d'écouter quelques textes écrits par Ronan Chevillé suite à des conversations dans le quartier du Breil à Nantes au cours de l'été 2020 sur les imaginaires européens.
Sartre, Suarez, Carlyle, Alain. Les cris qui se savent inécoutés enveloppe un horrible silence. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux vomir, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Tu peux gémir, tu peux cracher, tu peux maudire, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Décadence, décadence, décadence. Le problème n'est pas celui du citoyen, mais celui de l'homme. Lorsque l'humanité sera enfin sage, nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Renaissance, renaissance, renaissance. Quand tu pourras douter et croire, douter et agir, douter et vouloir. Tu seras sauvé lorsque l'humanité sera enfin sage. Nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Paix sur la terre, aux hommes, aux cœurs ouverts.
FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
Prochaine émission, mercredi 23 décembre, ambiance fantastique.